Esprit de justice,
Antoine Garapon.
Esprit de justice qui va se demander ce soir si on peut prévoir les crimes en compagnie d'Angèle Christin et Bilel Benbouzid. Le numérique a développé des programmes promettant d'anticiper la survenue de la délinquance en rendant crédible la dystopie portée à l'écran par Minority Reports. Nombre de services de police, en effet, utilisent aujourd'hui depuis des années des logiciels dont le plus célèbre est Predpol. D'autres logiciels ont vu le jour qui prévoient non plus le crime, mais la probabilité de la récidive pour des délinquants qui ont déjà commis une infraction. Ce qui a bien sûr bouleversé la justice, le juge devenant une sorte de risk manager. Alors que penser de ces nouveaux instruments qui, sous prétexte de prévoir le crime, pourraient bien décevoir la justice? C'est le thème de notre débat de ce soir en compagnie d'Angèle Christin, qui est maîtresse de conférences à l'université de Stanford aux États-Unis, qui est auteur d'un premier ouvrage qui en son temps avait marqué « Comparution immédiate, enquête sur une pratique judiciaire ». C'était à la découverte en 2008. Et puis, plus récemment, en 2020, « Matrix at Work, Journalism and the Contested Meaning of Algorithms », c'est-à-dire comment marchent ces algorithmes et le journalisme et le sens cryptique, contesté, polémique des algorithmes. Et pour en discuter avec elle, Bilel Benbouzid, qui est maître de conférences à l'université Gustave Eiffel, qui est sociologue au laboratoire interdisciplinaire Sciences, Innovation, Société, l'ISIS, et qui est l'auteur de très nombreux articles sur la police prédictive, et notamment, j'en isole un, des crimes et des séismes, la police prédictive entre sciences, techniques et divination. C'est à la revue Réseau. Bonsoir Angèle Christin, vous êtes avec nous depuis Palo Alto, depuis Stanford où vous enseignez. Bonsoir Bilel Benbouzid, vous êtes à Paris en studio. Et donc ma première question c'est pour savoir mais en quoi consistent exactement ces logiciels prédictifs, Bilel Benbouzid, comment ça marche?
Bonsoir Antoine Garapon, comment ça marche?
Est-ce que ça marche? On posera la question ensuite. Mais bon, d'abord, comment ça marche?
Oui, comment ça marche et qu'est-ce que c'est? En fait, souvent, la difficulté, c'est par où commencer quand on veut présenter cette police prédictive. Et souvent, je présente à mes étudiants une publicité de Thalès qui indique un policier connecté, comme ça qu'il l'appelle, et qui a eu des lunettes intelligentes, donc qui permet de reconnaître les visages, qui a un smartphone, qui est connecté à un centre de contrôle et qui a une caméra intelligente. Et ce policier connecté, il faut l'imaginer en patrouille, il est donc suivi à la trace. Et sur son smartphone, il est orienté vers des zones qui font à peu près 200 mètres par 200 mètres. Et il doit passer dans ces zones pour faire ce travail de prévention. Et avec ses lunettes intelligentes, il regarde dans l'espace public et essaye de regarder les visages des personnes. Et puis si, grâce à un algorithme qui indique des scores de risque associés à des personnes, sur sa lunette intelligente, lui indiquer un score de risque associé à cette personne.
Et c'est-à-dire qu'il y a une biométrie, on identifie quelqu'un et celui-là, il a un score, il a une mauvaise note ou une bonne note.
Une bonne note, un score de risque. C'est tout ce qui est calculé. Donc c'est un mélange à la fois d'une prédiction spatio-temporelle où on envoie les policiers dans l'espace et le temps donc au bon endroit au bon moment.
Dans des clusters, on dirait aujourd'hui.
Dans des clusters spatio-temporels.
Oui, c'est ça.
Et c'est aussi une prédiction sur les personnes où les personnes, on leur associe un score de risque de commettre un acte criminel. Et donc, on va essayer de suivre de manière préventive et non pas de manière répressive. Et c'est le mélange, l'articulation de ces deux approches, à la fois spatiale et sur les personnes qui fait la police prédictive.
Alors, on viendra ensuite sur les modèles mathématiques qui sont quand même très intéressants. Alors, vous citez l'exemple, pour que nos auditeurs se représentent bien l'enjeu, des policiers qui suivent une camionnette dans laquelle il y a deux
jeune afro-américain dans un quartier très chic, très huppé, à 6 heures, à un moment où il y a beaucoup de cambriolages. Qu'est-ce qu'ils font là? Est-ce qu'on les contrôle? Est-ce qu'on les arrête? Est-ce qu'on fouille le véhicule?
Oui, alors c'est une histoire qui m'avait été racontée par une autre entreprise qui est Unschlab, par un développeur d'une autre entreprise qui est un logiciel concurrent. Et en fait, donc c'est une situation intéressante. On peut imaginer une patrouille qui patrouille dans un quartier résidentiel et croise une camionnette. Il est entre 5h et 18h le soir en hiver. Et les policiers savent que c'est un horaire où les cambrioleurs passent à l'acte parce que, tout simplement, si les lumières sont éteintes à l'intérieur d'un domicile, c'est qu'il y a vraiment personne à 5h du soir. Et est-ce qu'ils ont une bonne raison d'arrêter les personnes sur cette simple information? Donc ils les suivent, le quatrième amendement leur empêche, les empêche.
Qu'est-ce qu'il dit le quatrième amendement?
Il protège les personnes d'une intrusion non légitime, on va dire, pour dire les choses. Et donc il faut une cause probable pour pouvoir arrêter des personnes. Et donc la question qui se pose, c'est donc ces policiers suivent cette camionnette et ils se demandent s'ils peuvent ou pas arrêter la camionnette et ils ne peuvent pas l'arrêter parce que pour cette question d'horaire, mais il se trouve que ces personnes-là vont mettre de l'essence et ce sont des Afro-Américains dans un style qu'on connaît bien, des Afro-Américains qui vivent dans les quartiers difficiles avec des vêtements qui leur indiquent tout ça et ils savent que c'est des capuches, voilà.
Des survêtements.
Voilà, ouais. Je voudrais pas rentrer dans les caricatures. Et en fait, la question se pose, est-ce qu'ils peuvent maintenant contrôler ces personnes puisque ils sont dans ce secteur et on sait que c'est un secteur résidentiel. Toujours pas, le quatrième amendement empêche les policiers de contrôler ces personnes. Alors les policiers ont une idée. Ils décident de consulter l'application Unschlab pour savoir s'il y a un risque de cambriolage ou pas. Et là, toute la question, c'est est-ce que la recommandation que fait l'algorithme d'un risque autorise ou pas les policiers à contrôler ces
Pour le sociologue que vous êtes, Bilal Benbouzid, ça veut dire qu'en fait, le logiciel, il joue un rôle d'une... une fonction d'autorisation. Une fonction d'autorisation pour ensuite dire à son chef « Ah oui, mais on a consulté le logiciel qui nous a dit que... »
Oui. Ouais, en fait, pour répondre à cette question, il faudrait que je retrace un petit peu, si je peux prendre 2-3 minutes, mais une histoire, en fait, de ces logiciels s'inscrivent dans une histoire de l'action publique en matière de sécurité aux États-Unis, où la police a un problème depuis longtemps qui est de...
Ça, on l'a vu récemment encore.
Ouais. Qui est qu'elle ne sert pas à lutter contre le crime. C'est des spécialistes qui vont le dire dès les années 70. Non, la police, elle sert à faire ce travail de répression. Mais ce travail de répression, on ne sait pas s'il sert vraiment à empêcher le crime et à rendre une sécurité plus sûre. Et donc, il y a
Il faut plutôt de la domination politique.
Il faut une action plus proactive que réactive. Et donc dans cette histoire longue, il y a eu plusieurs tentatives d'innovation et dans les années 80-90, il y a une réforme via le Comstat, comme comparatif statistique, qui va être un instrument très spécifique de gestion. Ce Comstat va faire l'objet de nombreuses critiques parce que ça va être un instrument d'analyse et de mise en compétition des policiers par des statistiques de benchmarking. Et dans un contexte où ce Comstat est remis en question, la police prédictive va devenir comme une solution pour pouvoir automatiser l'action de la police.
Angèle Christin, alors vous avez l'avantage, si je puis m'exprimer ainsi, d'être sociologue aussi, d'avoir enquêté en France et aux États-Unis. Et donc, le contexte de la police prédictive aux États-Unis a un contexte post-George Floyd.
Oui, tout à fait. Alors tout d'abord, merci Antoine Garapon pour cette invitation. C'est un plaisir d'être avec vous, même partant du campus de Stanford en Californie. Dans le cas de la justice et dans le cas de la police, en effet, ces innovations technologiques, donc tout ce qui est algorithme prédictif et technologie prédictive, s'inscrivent, comme l'a bien noté Bilal Benbouzid, dans un contexte qui est extrêmement politiquement chargé. Oui. Et donc en fait, à la fois pour les policiers et pour les magistrats, ces technologies prédictives sont vues comme étant des façons, on va dire, d'éliminer la subjectivité et donc les biais racistes notamment dans la prise de décision à la fois policière et judiciaire. Et donc ça, c'est tout à fait, on va dire, dans la même mouvance que le mouvement Black Lives Matter, et on va dire une critique de plus en plus importante des phénomènes de racisme dans l'action judiciaire et pénale aux États-Unis. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces technologies sont également vues comme permettant de maintenir une certaine forme de transparence dans les prises de décision de la police et de la justice. Par exemple, on voit ça avec tout ce qui est body cameras, donc les caméras que les policiers sont censés porter, qui sont aussi vues comme une forme de surveillance où cela permettra de documenter ce qui se passe lors des violences policières. Et on voit le même genre de dynamique dans les tribunaux.
Oui, on est frappé de voir les convergences avec le débat français, entre parenthèses, dans des contextes complètement différents, Angèle, Christin. Mais vous connaissez bien, vous, ces deux contextes, le contexte français et le contexte américain. Il y a quand même une surcharge politique dans les rapports raciaux aux États-Unis et dans lequel interviennent ces logiciels.
Tout à fait. Et donc c'est là où je pense que c'est assez intéressant, parce que ces logiciels prédictifs, et on va y venir, je pense, un peu plus tard dans cette émission, ont été très accusés d'être eux-mêmes racistes, discriminatoires et problématiques, ce qu'ils sont. Par ailleurs, mais il faut comprendre que pour les développeurs de ces logiciels, à la fois dans le contexte de la police et dans le contexte de la justice, ces technologies sont vues comme une forme de rationalisation qui est proposée comme une réponse aux violences policières et à l'incarcération de masse aux États-Unis. Et donc c'est d'une certaine façon ce que j'appelle dans mes travaux une forme d'externalisation du risque politique à la technologie. C'est-à-dire on dit, regardez, vous avez un énorme problème politique, raciste, discriminatoire, etc. Ça va être très compliqué à réformer. Au lieu d'essayer de réformer l'institution policière et l'institution judiciaire, essayons tout d'abord de mettre un algorithme dessus, qui est un peu une sorte de cache-misère, mettre un algorithme dessus pour voir si jamais la technologie elle-même peut régler ces problèmes politiques complexes.
Et ce qui est intéressant, Bilal Belbouzid, c'est que dans le choix même du logiciel, on voit cette volonté d'objectiver. C'est-à-dire, je pense au logiciel de PredPol, de faire la chose la plus moderne, délisatrice possible.
Oui, c'est ça. Et je rejoins entièrement ce que vient de dire Angèle. L'enjeu, c'est de dépersonnaliser au mieux le travail du policier à travers des prédictions qui ont cette apparence d'avoir une objectivité qu'on dira mécanique. Et donc, l'enjeu, c'est de créer une rationalité gestionnaire pour pouvoir envoyer les policiers de manière optimisée à des endroits très précis.
Oui, mais avant d'en arriver là, je voudrais que vous nous racontiez en deux mots, même si c'est un peu difficile, l'histoire du logiciel qui vient d'un physicien français, David Marsan, qui travaille sur les séismes.
Oui. J'ai découvert à la lecture de l'article de George Moller et Brantingham, qui sont les auteurs de l'article qui a fait PredPol, et qu'il y avait une petite citation vers David Marsan, un sismologue qui est à l'université de Chambéry. Et en fait, l'algorithme de PredPol repose sur un modèle qui est le modèle de la répétition. Et dans le champ de la sismologie, on prédit très mal un séisme, mais on arrive plus ou moins bien à modéliser la répétition des séismes. Et il se trouve que dans les années 80 aux États-Unis, il va y avoir une théorie en Angleterre aussi, qui est la théorie de la victimation à répétition, et qui dit que si vous avez été victime d'un cambriolage une fois, votre risque d'être victime d'un cambriolage une deuxième fois augmente.
Victime, pas auteur.
Non, victime, oui. Si vous êtes, c'est vraiment la recherche sur les victimes qui va. Ah ouais, et PredPol repose beaucoup sur les savoirs sur les victimes. Et donc cette théorie de la victimation à répétition, c'est celle qui loge dans le logiciel PredPol, qui en fait va s'inspirer des modèles de la sismologie qui modélise les répliques des tremblements de terre, et ils vont l'utiliser pour modéliser les répliques de cambriolage.
C'est ça. Oui, mais alors, Angèle Christin, moi, ce qui me frappe, vu de l'extérieur, on a enjambé la barrière des espèces. On a enjambé, par rapport à la criminologie traditionnelle, ce qui relève de l'homme, de son histoire, de son passé, de ses déterminismes sociaux, familiaux, psychologiques, à quelque chose d'absolument objectif, c'est le comportement de la Terre, la sismologie. Angèle Christin.
C'est intéressant. Alors tout à fait. Je pense que ce qui est intéressant dans cette approche, c'est de voir, et c'est ça, c'est spécifique à la police. Hein. Dans le cas de la justice, les modèles viennent d'une autre,
culture,
notamment de la psychologie et de la criminologie. Donc on pourra en parler un peu plus tard. Mais dans le cas de la police, c'est vrai que cette utilisation de modèles sismologiques pour déterminer le crime à venir, ça relève en fait, à mon avis, d'une compréhension du crime comme une sorte de phénomène naturel, une compréhension presque écologique du crime, et donc qui, je pense, encore une fois, relève de ce que Bilal Benvouzid mentionnait également, de cette forme de d'objectivité mécanique, c'est-à-dire en disant, mais qui est d'une certaine façon ce que font les sciences sociales depuis plus d'un siècle, c'est-à-dire c'est également ce que disait Emil Durkheim, par
tout
exemple, dans l'analyse du suicide, en disant le suicide n'est pas individuel, c'est un fait social qui a une régularité, qui a des structures, profondes, qui ne dépendent pas de l'individu. Et je pense que sur le crime, on voit le même genre de passage, on va dire, à la structure, en disant, en fait, c'est pas des déterminants individuels, l'individu n'a que peu à voir là-dedans, ce sont des déterminants sociaux au niveau holistique, on va dire.
Oui, c'est ça. Mais alors, l'intéressant, le piquant de cette histoire-là, Bilal Benmouzid, c'est que quand David Marsan, le physicien français, a repris des chiffres open source, donc de la ville de Chicago, et qu'il a appliqué son modèle, ça n'a pas été très concluant.
Non, il n'a pas été convaincu, mais il m'a expliqué pourquoi il n'était pas convaincu. Et c'est assez sophistiqué, mais il se trouvait que le modèle reposait sur le marketing de Freepol reposait sur l'idée qu'on va attraper la contagion. C'était l'idée qu'on va faire mieux que du hotspot. Le hotspot, c'est la concentration spatiale du crime. C'est quelque chose que depuis les années 70 on fait. On envoie les policiers là où ça se concentre spatialement. Et Freepol va dire non, nous aussi, on va attraper les crimes qui sont par contagion. Et donc, quand on a mesuré...
Toujours cette idée de la réplique sismique, en fait.
C'est la réplique, c'est la métaphore de la contagion, c'est qui ça. Est beaucoup utilisée en criminologie. Et c'est l'idée de cette contagion, ce qui fait que si vous êtes victime d'un cambriolage, les maisons dans un périmètre de 500 mètres, à partir du moment où vous êtes victime d'un cambriolage, ont un risque élevé d'être victime d'un cambriolage pendant une période d'un mois, et même sur le même trottoir. Donc, il y avait les modèles qui se sont raffinés.
Et donc, la ville est découpée en petits secteurs, en clusters, et là, on sait où il faut aller.
Et quand ? C'est ça le plus important, parce que ils ont 10 années de données, et sur une période courte, il y a un moment où c'est très chaud, il faut bien saisir ce moment-là. Et donc, il y avait aussi la métaphore du early warning system, des systèmes d'alerte,
signaux faibles,
et qui s'inspiraient aussi donc des méthodes de sismologie.
C'est ça.
Voilà. Et donc, lui n'est pas convaincu
par... Angèle ?
Antoine Garapon et Bilal Benbouzid, juste pour intervenir là-dessus, ce qui est intéressant, et ça rejoint ce que disait Bilal Benbouzid sur la question de la temporalité, et ce qu'il a mentionné auparavant, c'est que c'est également des systèmes gestionnaires dans un contexte de budget restreint. Et dans le cas de la police, c'est également, et de la justice aussi, il faut voir que ces logiciels sont également là pour essayer d'optimiser le déploiement des policiers sur le terrain dans un contexte où les départements de police, à tort ou à raison, estiment qu'ils n'ont pas les moyens, ou en tout cas qu'ils ont des moyens réduits à leur disposition pour contrôler une délinquance qu'ils voient comme étant un peu hors de contrôle. Et donc, en fait, ces logiciels, ce qu'ils font, c'est que c'est aussi, en fait, du matching, c'est-à-dire de déployer des policiers X, Y, Z dans des boîtes A, B, C à des moments T plus 1, T plus 2. Et donc, c'est aussi un logiciel gestionnaire, en fait.
Oui. Alors, d'ailleurs, David, excusez-moi, Bilal Benbouzid, je me mélange avec David Marsan. Dans votre dernier article de Réseau, vous constatez que pour vous, l'optimisation, c'est vraiment la vérité de ces logiciels.
Absolument. L'enjeu n'est pas de prédire le crime. Oui. Ça n'a jamais été de prédire le crime. Et je crois même que les développeurs qui développent
ça, n'y croyaient pas eux-mêmes.
Non, l'enjeu, c'est la prédiction, c'est le vecteur d'autres métriques et des métriques de productivité. La sécurité, elle est conçue comme quelque chose à produire aux États-Unis. Et il faut la produire avec le travail des policiers. Il faut bien imaginer à quel point il est dur pour le responsable, on dirait d'un commissariat aux États-Unis, d'un pressing. Il est dur de produire cette sécurité. Comment vous faites pour vous assurer que lorsque vous envoyez des agents sur le terrain, vous faites cette sécurité-là. Comment vous transformez ce travail proactif en sécurité? Et c'est très dur d'être proactif. La police a toujours privilégié une action réactive, mais ce travail proactif est compliqué. Alors, pour pouvoir le mettre en place, ils ont développé tout un ensemble d'instruments, et notamment des techniques gestionnaires et des statistiques. Et la police prédictive, c'est un peu ce qui est arrivé récemment. Et ce que j'aimerais dire et qui est important, c'est que pour faire cette optimisation, ils font cette prédiction, puis ils peuvent pas envoyer les policiers partout sur un territoire. Donc ils vont limiter les zones en fonction de priorités. C'est là qu'ils mettent d'autres métriques de retour sur investissement, comme des coûts du crime. Donc un meurtre coûte $1 million de dollars à la société quand un cambriolage en coûte 50 000.
C'est ça, cette thématique du coût qui est vraiment très très
importante, parce qu'on va envoyer une patrouille à un endroit et pas à un autre, parce qu'à la fin du mois, on pourra dire... C'est ça. Quel retour sur investissement j'ai fait.
Angèle, Christin, vous partagez cette idée que la sécurité aux États-Unis se produit, c'est un bien qui se produit, qui se mesure et de laquelle on est redevable.
Tout à fait. Et donc, je pense que notamment les technologies de prédiction et les technologies numériques de façon plus générale, vraiment sont guidées par une sorte de double objectif. Et ça se manifeste très clairement dans les discours des compagnies et des acteurs qui opèrent dans ce marché de la sécurité, hein, pour aussi dire. Le premier objectif, c'est un objectif donc managérial, un objectif d'efficacité, de performance et aussi de démonstration, c'est-à-dire une grande partie de l'activité
des acteurs,
c'est de montrer, qu'ils sont très actifs et donc d'avoir des métriques notamment, parce que comme on sait, les chiffres ont tendance à porter plus loin que les paroles, et donc d'avoir des métriques sonnantes et trébuchantes, pour ainsi dire, qui documentent cette activité. Donc ça, c'est la première chose, une sorte d'objectif un peu managérial de performance, d'efficacité. Et par ailleurs, le deuxième aspect qu'on a mentionné un peu précédemment, qui est cette volonté d'objectiver, de rendre plus rationnel le jugement policier et judiciaire. Donc vraiment une double volonté à la fois d'efficacité et de rationalisation dans les deux sens du terme, à la fois économique et politique. I'm not your friend.
What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything, damn.
France Culture,
Esprit de Justice,
Antoine Garapon.
Esprit de Justice qui continue ce soir de se poser la question de savoir si on peut prédire le crime et commun et comment, en compagnie de Bilal Benbouzil et de Angèle Christin. Angèle Christin qui a choisi de nous faire entendre cette chanson de Billie Eilish, Therefore I Am. Un mot, Angèle Christin, sur ce choix?
Tout d'abord, que je suis enchantée d'entendre cette chanson.
Oui, nous aussi, d'ailleurs.
C'est un grand plaisir. Oui. Et par ailleurs, effectivement, au-delà du fait juste que j'aime la chanson, je pense que Billie Eilish a un discours très féministe par rapport à cette question du cogito de Descartes. Donc, la chanson s'appelle Therefore I Am, comme je pense donc je suis. Et dans cette chanson, en fait, elle détourne cette maxime dans une relation, on va dire, conflictuelle avec notamment un homme. Qui se voit comme un philosophe et qui, on va dire, voilà, a des grands principes et donc donc elle se moque un peu de lui, elle se moque un peu de cette approche philosophique. Et je pense que c'est lié à mon programme de recherche, parce que j'ai l'impression, à mon modeste niveau, de faire un peu la même chose avec les algorithmes. Au sens où une grande partie du débat sur les algorithmes, c'est sur l'intelligence artificielle, les valeurs de l'intelligence artificielle, l'éthique de l'intelligence artificielle. Et moi, à la place, ce que je fais, c'est que je vais faire du terrain ethnographique et je vais passer du temps dans des tas d'endroits bizarres, donc notamment des arrière-cours de tribunaux, des souterrains de palais de justice, avec des juges, des procureurs, des travailleurs sociaux, des avocats et plein d'autres gens, en leur demandant comment est-ce que vous utilisez ces technologies prédictives et qu'est-ce que ça nous apprend sur leur impact réel dans le monde réel.
C'est ça. Il faut que vous nous disiez un mot sur Compass avant de continuer votre rapport sur le travail ethnographique que vous faites dans les cours américaines, Angèle Christin. C'est quoi Compass ?
Alors, Compass, c'est un logiciel de prédiction de la récidive qui est utilisé dans les tribunaux américains, également au Canada et dans une certaine mesure au Royaume-Uni, pour estimer les risques de récidive des délinquants. Alors, concrètement, la façon dont ça marche, c'est que c'est une sorte de questionnaire avec un ensemble de questions qui sont posées aux prévenus. Qui se trouve déjà, on va dire, en garde à vue ou dans le cadre d'une enquête et de poursuite. Et donc, les prévenus répondent à un ensemble de questions. Certaines de ces questions sont très objectivantes, en disant, donc, par exemple, les travailleurs sociaux doivent rentrer tout un ensemble de variables sur l'âge du prévenu, le sexe du prévenu, le lieu de résidence, etc., le type d'offense, le type de délit dont le prévenu est accusé, également le casier judiciaire, etc. Mais il y a tout un autre ensemble de variables qui sont beaucoup plus subjectives, on peut dire, avec par exemple des questions sur les amis du prévenu, sur est-ce que le prévenu a une histoire d'abus de stupéfiants, est-ce que le prévenu a des attitudes qui s'appellent en anglais antisociales, donc c'est-à-dire concrètement, si jamais le prévenu pense, il y a une question notamment qui dit, est-ce que vous pensez que la fin exige les moyens, justifie les moyens, quelque chose comme ça, ou est-ce que vous pensez que quand on a faim, on peut voler de la nourriture.
C'est extraordinaire comme question. C'est des questions qu'en France, on ne songerait pas à les poser tellement elles semblent un peu naïves quand même, Angèle Christin, non ?
Alors tout à fait, mais c'est là où il faut comprendre en fait l'histoire. Alors je finis sur le déroulement de ce logiciel. Donc une fois qu'on a toutes ces réponses, avant de passer un petit peu à l'histoire, une fois qu'on a toutes ces informations à partir de ce questionnaire, les travailleurs sociaux qui administrent le questionnaire peuvent appuyer sur un petit bouton qui est sur le logiciel, donc sur des ordinateurs, qui dit calculer le risque. Et qu'on passe ensuite à partir d'une grande base de données, à partir de cas similaires, etc., donc construite à partir des années 90, calcule le risque de récidive de ce prévenu en considération, avec un risque de récidive allant de 0 à 10, 0 voulant dire que c'est un risque très faible et 10 voulant dire que c'est un risque très élevé, avec ensuite des sous-catégories, notamment il y a un risque de récidive violente qui estime si jamais le prévenu pourrait s'engager dans des formes de violence contre les personnes à partir de cette même base de données. Et ensuite, ces risques, donc ces scores, donc qui vont de 1 à 10, sont ajoutés au dossier du prévenu et sont mobilisés lors à la fois de la mise en détention provisoire, donc de la décision de mise en détention provisoire avant le jugement, mais également lors du jugement et potentiellement lors de peines d'incarcération, particulier pour décider de la remise en liberté provisoire.
Est-ce que ça compte beaucoup ? Est-ce qu'il compte beaucoup ce score ? En théorie, hein.
En théorie, ce score compte, mais n'est pas prescriptif, n'est pas obligatoire. La façon dont cela est justifié par la compagnie qui a construit Compass, qui ensuite a été racheté, puis à nouveau racheté, mais qui maintenant s'appelle Equivant. Pour cette compagnie, les scores de Compass sont là pour structurer la prise de décision pénale. Et donc, structurer la prise de décision pénale, c'est l'idée que ces scores permettent en fait de résumer l'information qui est présente dans le dossier sous une forme succincte, c'est-à-dire un chiffre, qui permet aux juges et aux procureurs et aux avocats de prendre des décisions de façon plus efficace, plus rapide et plus objective.
On voit, Biel Benbouzid, que le travail de la justice, quoi, l'application de ce logiciel prédictif est complètement différent, ce que vous disiez tout à l'heure, du travail de la police. La justice, elle a des personnes qui sont déférées, donc c'est des logiciels qui sont vraiment référés à la personne et à ses fréquentations.
Oui, mais il y a quand même dans ce qu'on appelle la police prédictive tout un domaine qui est tourné vers les personnes. Il y a celui qui est tourné vers et c'est vraiment des cas intéressants. À Los Angeles, c'est le projet Laser, et à Chicago, c'est la Strategic Subject List. Et donc là aussi, alors comment ça marche? Alors à Chicago, c'est un réseau. Faut imaginer un réseau, donc des nœuds et des liens entre des nœuds, où chaque nœud est une personne, et c'est un réseau de co-arrestation. Et donc l'idée, c'est de prédire qui va faire l'objet d'une arrestation dans le futur, ou sera victime, pourquoi pas, d'un homicide. Et donc là, les policiers ont imaginé à Chicago, par exemple, un système de lettres, où on envoie des lettres, même à Los Angeles, où on indique « attention, nous pensons que vous êtes susceptible de commettre un acte » ou
à l'intéressé lui-même.
À l'intéressé lui-même. Et donc ça posait beaucoup de problèmes parce que à Chicago, c'est 300 000 personnes dans une base de données. Et donc au début, c'était l'idée que c'était que des membres de gang, mais en fait, ça n'était pas. On a découvert qu'il y avait ça a été évalué récemment par une sorte de d'inspection générale. Et ça n'existe plus depuis une année.
Parce que ce que vous avez constaté, alors vous, Angèle Christin, vous êtes allée voir, forte de ce que vous aviez fait déjà dans les tribunaux de la région parisienne, je crois me souvenir, vous êtes allé voir ce qui se passait dans les tribunaux et comment on appliquait ces logiciels.
Tout à fait. Alors, la façon dont ce projet s'est développé, c'est que à partir de 2015, donc cette question des algorithmes prédictifs dans la justice pénale, notamment, mais en parallèle avec les algorithmes prédictifs dans la police, les deux sujets vont souvent de pair, on va dire, parce que avec l'idée que ça amplifie notamment les inégalités de façon un peu exponentielle, hein, en ajoutant police plus justice plus incarcération.
Il y a eu plus science, parce qu'en plus c'est des discriminations qui sont objectivés par la science, en plus.
Exactement, et qui sont justifiés d'une certaine façon, hein, par ce qu'on va appeler, on va dire, l'aura des algorithmes, c'est-à-dire avec cette idée que c'est du machine learning, que c'est de l'apprentissage automatique, et que donc les algorithmes savent mieux que nous, d'une certaine façon, qui est un discours qu'on voit énormément dans la Silicon Valley et en partie qu'on voit adopter ensuite dans l'administration publique, dont la justice pénale et la police. Alors donc face à cet intérêt pour les algorithmes prédictifs et forte, on va dire, du travail que j'avais fait auparavant dans les tribunaux de la région parisienne, dans la procédure dite de comparution immédiate, moi je me suis intéressée à qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain, qu'est-ce qui se passe dans les tribunaux. Alors il y avait tout un ensemble d'articles souvent médiatiques disant c'est terrible, regardez, c'est Terminator, c'est Minority Report, on va tous être jugés pour des crimes qu'on n'a pas commis, etc. Et moi, je me suis dit, c'est étonnant quand même parce que ça ressemble pas beaucoup à l'image que je me fais des tribunaux. Les tribunaux, en général, c'est des endroits où il y a beaucoup de papiers, qui sont assez poussiéreux, et où, on va dire, beaucoup de décisions se jouent dans les relations interpersonnelles entre juges, procureurs, avocats, prévenus, etc.
Ça reste vrai.
Et ça reste vrai. Alors c'était un peu ça là où j'en venais, c'est-à-dire que j'ai été faire du terrain ethnographique, donc des entretiens, des observations, passer du temps, aller prendre des cafés, aller déjeuner, parler, juste suivre le quotidien des magistrats et des avocats, notamment dans trois tribunaux aux États-Unis, donc un tribunal sur la côte Est, un tribunal dans le sud des États-Unis, un tribunal sur la côte Ouest, regarder comment les juges et les procureurs se servaient de ces algorithmes prédictifs. Et donc, à partir de ce terrain, ce qui m'a énormément frappé, c'est que ils s'en servent surtout pas. C'est-à-dire que lors de mon terrain, donc j'arrivais à chaque fois un peu la bouche en cœur en disant mais donc qu'on passe les algorithmes prédictifs, qu'est-ce que vous en pensez? Et la première réponse que j'ai eue dans la plupart de ces tribunaux, c'est quoi? Mais de quoi vous parlez? Ah oui, on nous en a parlé, mais vous savez, moi je m'en suis jamais servi. Donc ça, c'était la première réponse que j'ai eue. La deuxième réponse que j'ai eue, c'était ah oui, mais ces logiciels, moi je m'en sers pas. Écoutez, je suis magistrat depuis 30 ans. Je préfère me fonder sur ma propre appréciation du prévenu, Et ma propre lecture des faits, je ne comprends pas pourquoi je devrais faire confiance à un algorithme qui a été construit par une compagnie privée en utilisant des méthodes que je ne comprends pas, des données dans lesquelles j'ai une confiance limitée. Je vois pas du tout pourquoi je devrais m'en servir. Et une troisième réponse qui disait mais attendez, ces algorithmes sont biaisés et discriminatoires. Et il me semble avoir lu quelque chose là-dessus dans les médias. C'est peut-être pas une très bonne idée de s'en servir. Donc non, je ne m'en sers pas. Donc voilà, donc une certaine résistance des magistrats pour utiliser ces algorithmes prédictifs.
Bilal Benbouzid, ça vous surprend ça?
Non, parce que j'ai observé, je mène pas des enquêtes comme Angèle au plus près du travail des policiers, je regarde plutôt
les gens qui fabriquent
ces algorithmes, mais j'essaie aussi de regarder l'algorithme lui-même, je regarde aussi assez internaliste.
Ce qu'il a dans le ventre.
Ce qu'il y a dans le ventre de l'algorithme. Mais quand j'étais à Los Angeles et j'interrogeais les policiers, c'est vrai que la plupart d'entre eux ne semblaient pas être complètement aliénés à la machine, à l'utiliser de manière forcée. Alors, il y avait même certaines histoires, on parlait des box stories, parce que vu qu'ils ne savaient pas trop quoi faire une fois qu'ils étaient envoyés dans ces lieux, c'est des box de 200 mètres par 200 mètres. Mais, alors, ils inventaient des histoires pour faire plaisir à leur responsable hiérarchique. Donc, il y avait des choses comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que parce qu'ils ne savaient pas quoi faire dans ces box, progressivement, ils ont transformé l'usage en faisant un système de dosage. Alors ça, c'est important. Quand on envoie une patrouille de police dans une de ces box qui fait 200 mètres par 200 mètres, une fois qu'il passe dedans, la box devient un rond jaune. Et une fois qu'il a fait 5% de son temps journalier, la box devient un rond vert. Elle n'a plus besoin de passer là. Ça veut dire que son passage suffit comme mode de dissuasion. Ça veut dire qu'on gouverne bien par les chiffres. C'est-à-dire une fois qu'on a bien dosé, on considère qu'on a fait l'offre de sécurité publique quotidienne. C'est vrai que c'est un usage assez limité.
Ce qui est intéressant dans ce que vous dites l'un et l'autre, quoi, c'est là où c'est complémentaire d'ailleurs, c'est cette résistance des juges et des avocats d'utiliser quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Angèle Christin. C'est donc qu'il y a bien quelque chose dans cette boîte noire.
Tout à fait. Alors, je pense que cette idée de la boîte noire est très importante, notamment quand on parle des algorithmes. Bon, sachant que les logiciels comme Compass, en fait, c'est assez intéressant ça aussi. Ils se présentent souvent comme faisant du machine learning, mais en fait, ils n'en font pas.
Oui.
Non, en fait, c'est des régressions à l'ancienne. Et cela vient en fait de l'histoire, notamment de ces logiciels qui ont émergé vraiment à partir des années 70 et 80. Aux États-Unis, dans le contexte, on va dire, du début de l'incarcération de masse, mais dans une phase, on va dire, les objectifs de réhabilitation des prévenus et ensuite des prisonniers étaient quand même assez importantes, et dans une phase aussi où c'est là où la question de la science joue également un rôle, où une nouvelle discipline était en train de gagner énormément de terrain dans les facultés américaines, qui est la discipline de la criminologie, avec une idée d'une attention spécifique aux déterminants du crime et à comment gérer le crime et comment s'insérer dans les...
C'est ça, c'est un changement. En fait, c'est un changement à 180 degrés par rapport à une criminologie humaniste, on peut dire, de l'après-guerre, qu'on a connu en France d'ailleurs, mais qui va durer plus longtemps en France. Et c'était, je parle sous votre contrôle à tous les deux, avant, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'aux États-Unis, c'est la politisation du thème de la sécurité dans les années 70-80, quoi. C'est-à-dire, tout d'un coup, ça devient un véritable thème, Bilal Benbouzid.
Oui, et la continuité, parce qu'on parle criminologie, c'est la prévention situationnelle. J'ai fait ma thèse sur ce sujet-là. Et on est vraiment dans la continuité de ce qu'on appelle aussi la science du crime. C'est l'idée qu'on peut régler les problèmes de sécurité, non plus en agissant sur les déterminants des criminels. C'est encore une autre école, ce qui oriente Compass, mais sur l'environnement urbain, sur une organisation optimisée et stratégique de la police. Donc, on oublie le délinquant et on s'intéresse beaucoup plus aux victimes. Et c'est aussi cette continuité-là qui.
Alors moi je suis frappé que l'un et l'autre, vous vous êtes pas donné le mot, j'imagine, même si vous avez travaillé ensemble, c'est que le même mot revient dans vos écrits, celui d'évangélisme. C'est-à-dire que il y a une part quand même de croyance là-dedans, Angèle Christin, non, dans les
algorithmes. Tout à fait. Et c'est quelque chose que je vois énormément de Stanford et du milieu de la Silicon Valley où tous mes voisins travaillent pour les grandes compagnies de technologie. Je pense que la question des algorithmes et plus généralement des technologies numériques viennent avec toute une aura, un ensemble de croyances et de discours qui visent à faire plusieurs choses. Mais d'abord à expliquer que ces technologies sont plus objectives et plus rationnelles que les humains. Ouais. Alors ça, de la même façon, il y a une longue histoire à ça. Hein. Je veux dire, on parle notamment du concept d'objectivité mécanique, mais dans le cas, par exemple, si on regarde les premières utilisations de la photographie et de la radiologie, il y avait cette même idée que les machines ne mentent pas, hein, que les machines peuvent nous sauver de notre propre subjectivité, qu'elles sont plus efficaces, infatigables, qu'elles n'ont pas besoin de dormir. On voit les mêmes choses dans les usines Fordisme, etc. Donc c'est vraiment des projections sur la technologie qui sont là depuis longtemps, mais qui ont été, turbochargées par les technologies numériques et par le fait que c'est devenu un marché extrêmement lucratif.
Alors on va parler de l'économie. On va parler de l'économie qui se mêle à ça, mais Bilal Benbouzid, alors effectivement, cette dimension rédemptrice de la machine.
Et oui, parce que dans la continuité de ce que vient de dire Angèle, Predpol est né avec cette même idée que les algorithmes faisaient mieux que les analystes criminels. Ils vont montrer, il y a une courbe célèbre qui a fait beaucoup discuter, qui était dans la presse, que les algorithmes étaient deux fois plus efficaces que les analystes.
C'était prouvé.
C'était une manière de vendre et de légitimer le prêt de poids.
Et vous vous demandez aussi, Bilal Benbouzid, s'il n'y a pas un peu une sorte de dimension divinatoire. Hein, c'est le titre de votre article.
Oui, ça m'est venu au moment où j'ai interrogé David Marsan, ce sismologue, qui lui n'était pas convaincu. Et ça, d'un point de vue de la sociologie des sciences, c'est assez fascinant parce que je crois que les mathématiciens de Los Angeles et le sismologue de Chambéry, qui est un physicien, les deux étaient assez honnêtes, en fait, je crois. Vraiment. Oui. Je pense que les chercheurs sont honnêtes et que le papier de Predpol est passé dans une bonne revue. Et la question était de dire, alors, qu'est-ce qui se passe pour que deux scientifiques de deux côtés de l'Atlantique,
de bonne foi,
ne sont pas d'accord. Et c'est là qu'il se joue quelque chose. Et en fait, c'est en matière de sismologie, vous ne pouvez pas prédire un séisme à la légère. Mais dans le champ de la prédiction du crime...
Parce que là, il s'agit d'évacuer quand même un quartier entier. Voilà, et si vous vous trompez, c'est des milliers de victimes.
C'est des milliers de victimes, et en plus de ça, ça se voit, vraiment. Et alors, c'est pas tout à fait pareil pour la prédiction du crime. Donc finalement, il y avait des rapports au monde qui fait que les logiciels prédictifs sont passés dans le monde de la police et ne passent pas dans le monde de la sismologie de la même manière.
France Culture,
Esprit de Justice,
Antoine Garapon.
Qui continue de chercher activement, âprement, de savoir si on peut prédire le crime, ce soir en compagnie d'Angèle Christin et de Bilal Benbouzid. Bilal Benbouzid qui a choisi de nous faire entendre cet air Outside Now Again de Franck Zappa et Pierre Boulez. Est-ce que vous pouvez dire un mot?
Oui, en fait j'ai découvert cet été que Zappa avait écrit pour Boulez et que Boulez avait donc dirigé. Et donc c'est dans cet album-là que paraît cette musique. Et en faisant des recherches sur ça, je découvre que Zappa était assez fasciné par l'IRCAM. Mmh. Et aussi fasciné par l'usage des machines dans la musique.
Dans la musique, oui,
d'ailleurs, ce morceau, c'est un morceau, on va dire ce qu'on appelait le saint clavier, un ancêtre d'un synthétiseur. Et Boulez aussi était fasciné par l'ordinateur. Et en faisant des recherches sur ça, je me suis rendu compte que les musiciens avaient un rapport aux machines qui était vraiment intéressant. C'est que contrairement au débat qu'on a sur la police, ils n'ont pas de rapport de rivalité avec la machine. Et quand on les entend parler, c'est pour eux l'occasion de rediscuter de l'histoire des formes musicales. Pour Zappa, c'était aussi l'idée de s'affranchir des musiciens avec qui ils s'entendaient pas bien. Mais lui disait aussi que c'est l'occasion de revoir et de faire autrement de la musique. Et alors, pour les musiciens, ce qui est intéressant, c'est que pour eux, c'est non pas la peur que la machine va venir prendre leur travail, mais c'est l'occasion de réorganiser leur travail de musicien. Et si on était capable, je crois, dans le champ de l'action publique, quand les machines interviennent, de discuter comme on discute des machines dans le champ musical. Il y a un cours au Collège de France qui porte là-dessus d'ailleurs, où il y a une émission sur France Culture où le responsable, le représentant de la chaire d'informatique discute avec celui de la chaire musicale pour dire on a découvert qu'on avait des problèmes dans les bugs d'avion qui étaient les mêmes quand on discute des enjeux de langage informatique dans la musique. Et je crois qu'on peut aussi ne pas rentrer dans ce rapport de rivalité avec les machines dans l'action publique, même en matière de police.
Alors, est-ce que, Angèle, Christin, là où vous êtes, vous disiez, vous êtes au cœur de la Silicon Valley, vous êtes dans le temple même des créateurs d'algorithmes, qui est l'université de Stanford, est-ce que c'est possible de résister à cette pression, j'allais dire, à cette, comment dirais-je, pas cette idéologie, mais c'est parce que c'est plus profond que ça, c'est vraiment cette croyance dans la technique qui va nous débarrasser de l'humain et qui est adossée à un très très gros système économique.
C'est une très bonne question et je pense que peut-être qu'on parlait de contamination plus tôt, peut-être que je suis déjà trop contaminée, je ne le vois même plus. Plus sérieusement, je pense que ce que disait Bilal Benbouzid est tout à fait correct au sens où les débats que nous avons ici, alors c'est par rapport à ce que vous disiez, c'est en grande partie comment est-ce que le travail se réorganise. C'est-à-dire que quand on inclut on va dire des algorithmes et des systèmes computationnels de façon de plus en plus avancée dans le travail public ou privé, de recherche ou pas, quelle que soit la forme de travail, le travail ne disparaît pas, mais il est réorganisé et différentes formes d'expertise, mais également différentes formes d'inégalité émergent. Et donc la question, il me semble, c'est de dire comment est-ce qu'on s'assure que à la fois la reconfiguration des expertises se fait dans un sens qui ne nuit pas on va dire au type de travail qui est en train d'être fait, mais également pour s'assurer que les inégalités ne sont pas amplifiées et ensuite on va dire cristallisées dans des algorithmes qui ensuite sont très difficiles à changer.
C'est ça. C'est alors c'est votre question quoi. C'est une des questions que posent les créateurs d'algorithmes, Bilal Benbouzid. C'est cette fameuse question. Alors on pourrait appeler ça en France quoi. C'est un mot qui est quasiment intraduisible en français. Hein. C'est l'idée de fairness. Mmh. Hein. Angèle Christin parlait de la question de l'inégalité, qui est la grande question morale qui sous-tend ces logiciels. Et fairness, c'est l'idée de pouvoir de pouvoir mettre des valeurs de justice dans le logiciel lui-même.
Oui, parce que la principale critique qui est adressée à Fred Paul et mais aussi à Compass, qui est un cas célèbre d'équité dans bien la sûr, machine, on dira, je ne sais pas si c'est la bonne traduction, mais on dira équité.
C'est justice, loyauté, équité, justice, c'est ces trois choses.
Ouais, voilà. Et c'est que c'est des machines à produire des inégalités, puisque si elles apprennent sur des données qui sont les données du travail de la police, c'est de l'apprentissage statistique, alors elles répètent ces biais. Et donc, on sait que les policiers ne contrôlent pas au hasard dans la population. Donc, si une machine apprend à travers ça, elle risque de répéter ses biais. Et donc, on a critiqué la police prédictive pour être une machine qui renforçait le contrôle des policiers auprès des minorités. Ouais. Et donc, c'était le problème du Comstat, ouais. L'ancêtre du prédictive policing.
Ça vient, oui, c'est ça.
Voilà. Et on a accusé Comstat parce que c'était une logique de quota où les policiers étaient obligés de rentrer au commissariat en disant voilà combien de stop and frisk j'ai fait, donc d'arrestation et de palpation. Ouais. Ça a été remis en cause par la justice, la Cour de justice de New York, qui va dire que c'est illégal de pratiquer ces quotas et en plus c'est discriminant. Et on retrouve la même critique au sein de l'usage du machine learning dans la police.
Mais alors, comment est-ce qu'on va pouvoir imbriquer la fairness dans les machines
Alors ça, c'est un chantier qui a commencé il y a à peu près une dizaine d'années, mais et qui est devenu un des chantiers les plus importants de la régulation de l'intelligence artificielle.
Ah oui, aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est un des chantiers les plus importants, oui, où c'est l'idée de comment une machine qui prédit, on règle son efficacité avec des métriques de précision. Ces métriques de précision, il faut maintenant, vu qu'il y a cette contrainte, ajouter des métriques d'équité. Et le problème, c'est que plus vous améliorez l'équité, plus vous faites baisser la précision.
Bien sûr.
Donc, Si vous, donc être précis, c'est donc un modèle qui attrape le maximum de vrais positifs. Mais il faut pouvoir aussi faire en sorte que il n'y ait pas de d'orientation de la police dans les quartiers avec des populations minoritaires davantage que dans d'autres.
Une surprésence de la police, c'est ça.
Et donc on va intégrer des métriques de contrainte. De la même manière qu'on a des métriques de précision, on ajoute des métriques d'équité. Mais c'est un chantier complexe. Et Compass a été un des terrains les plus importants de cette recherche.
C'est ça, Angèle Christin, la métrique d'équité, c'est vraiment le problème qu'a soulevé Compass et qu'a donné lieu à un très très gros débat aux États-Unis, notamment où s'est mêlée une ONG, je sais pas comment dire, ProPublica, qui a fait un travail remarquable.
Les journalistes, je crois.
Les journalistes, oui.
Tout à fait. Alors, c'est intéressant que nous ayons cette discussion parce que je sors juste d'avoir passé, j'ai passé toute la semaine à la grande conférence justement sur les questions d'équité dans tout ce qui est apprentissage automatique et intelligence artificielle, qui s'appelle FACT, donc Fairness, Accountability and Transparency, et qui est une conférence qui est maintenant sponsorisée, on va dire, sous le parapluie de ACM, qui est la grande association d'informatique aux États-Unis, qui s'appelle Association for Computing Machinery. Et donc c'est intéressant parce que c'est de voir exactement quelles sont à la fois les stratégies concrètes et les modes d'instrumentalisation de ces impératifs de justice, d'équité, de transparence, et d'éthique, parce qu'en général on fait rentrer l'éthique là-dedans, un peu comme une sorte de sucre vanillé sur la surface, mais enfin bon, comment est-ce qu'on les fait rentrer dans les modèles? Et comme le disait très bien Bilal Benbouzid, c'est impossible, en fait. Enfin, c'est impossible. Ce sont des choix politiques, au sens où ce qu'on perd en précision, on le gagne en équité, mais qui sont les personnes qui définissent les valeurs d'équité qui seront incorporés dans les modèles. Et donc, en fait, c'est un peu un système de régression à l'infini où la question de quels sont les preneurs de décision, quels sont les processus de transparence, de consultation, etc., de calibration qui sont mis en place. Je pense que voilà, c'est un débat en ce moment où participent à la fois des journalistes, des technologistes, des académiciens, des personnes dans l'université, des informaticiens, des avocats. Enfin, je veux dire, c'est très interdisciplinaire, c'est extrêmement assez conflictuel. C'est en ce moment, il y a plein de questions sur comment, quels sont les détails de ces pratiques, et c'est un énorme chantier pour les années à venir.
C'est intéressant, on en reparlera probablement dans l'esprit de justice, mais moi, la question que je me pose, que je vous pose à tous les deux, et en commençant par vous, Bilal Benbouzid, c'est pourquoi à chaque fois on persiste, Christelle parlait de régression à l'infini, c'est-à-dire qu'on persiste à vouloir absolument enfermer dans la machine quelque chose qui est de nature extra-scientifique, qui est l'art du choix. C'est la politique depuis Aristote, c'est l'art du choix. Oui. C'est d'agir ensemble dans un monde incertain dont on assume l'incertitude.
Et en même temps, je me dis, c'est vrai que la première fois que j'ai découvert qu'il y avait cette idée d'équité, cette moralisation, cette mathématisation de la morale, j'ai été fasciné. Et en même temps, pourquoi je me dis, au fond, ça reste quand même des enjeux, les valeurs, c'est dans le mot valeur est intéressant, peuvent être mis en mathématiques. Je veux dire, l'efficacité est une valeur.
Ah, est-ce que les valeurs peuvent être mises en équation? Ça, c'est une vraie question, ça.
Si on peut mettre l'efficacité en équation, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas mettre... Mais c'est une valeur.
C'est ça.
Donc, c'est quantifiable d'une manière qui est tout à fait limitée, qui ne tient pas compte des contextes sociaux, de l'équité, etc. Mais au fond, on peut inventer des métriques. Elles seront toujours contradictoires les unes avec les autres. Elles ne se suffiront pas à elles-mêmes. Mais pourquoi pas? Parce que on peut rendre quantifiable ces valeurs.
Angèle Christin, il y a quand même un acteur aussi dont vous avez, on a juste mentionné sans plus, mais c'est quand même aussi le business. C'est-à-dire que comment est-ce que vous pouvez vous situer, comment vous situez-vous avec une sorte de culture politique française de ce qu'on voit à travers les événements sociaux comme la justice ou la police et cette tendance à exclure systématiquement la politique, Angèle Christin?
C'est très intéressant. Alors, je pensais que vous alliez partir dans une autre direction qui est, mais qui est liée, hein. Donc, je vais réagir là-dessus, qui est le fait que, enfin, quand même, un aspect dont on a très peu parlé jusqu'à présent, et c'est peut-être un petit peu moins le cas dans la police prédictive que dans la justice prédictive, mais c'est le fait que tous ces logiciels, enfin, une grande partie de ces logiciels sont développés par des compagnies privées, qui sont à but tout à fait lucratif. Hein, et donc ce qui contribue d'une grande partie à cette évangélisation des algorithmes, c'est-à-dire que c'est leur business model. Leur business model, c'est d'expliquer à tout le monde que nous allons être sauvés par les algorithmes, et c'est comme ça qu'elles vendent leurs produits au département de police. D'ailleurs, il y a des travaux en ce moment très intéressants qui sont faits sur la façon dont ces compagnies de technologie, en fait, embauchent des policiers. Ou des anciens policiers à la retraite pour ensuite faire de l'évangélisation.
C'est comme ça que c'est dit, c'est les propres termes. Hein.
Voilà, exactement, pour convaincre leurs anciens collègues que, en fait, vraiment, cette technologie est super et ça va vous simplifier la vie, vous devriez vraiment l'essayer. Et donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose à dire là-dessus, sur le manque, bon, on en revient, et c'est peut-être là où mon tropisme français se manifeste, mais sur le manque de cadres légaux, et de cadres bureaucratiques, en fait, sur le développement de ces technologies dans le domaine de la police et de la justice. C'est-à-dire que concrètement, si moi, demain, je crée mon logiciel de prédiction de la délinquance ou de la récidive, sachant que je suis pas informaticienne, je suis pas criminologue, en fait, j'ai très peu d'expertise sur la construction d'un logiciel. Mais mettons, j'embauche un étudiant à Stanford et on crée un petit logiciel, personne ne m'empêche de le commercialiser et d'aller voir tous les départements de police et tous les tribunaux en leur disant « Eh, regardez, pourquoi est-ce que vous achetez pas mon logiciel? Il est super !» Et donc, en fait, ce manque de réglementation, qui est dans le contexte, alors, un contexte très américain, hein, où le marché sert de réglementation.
Et puis un contexte fédéral aussi, hein, qui est très important, en l'occurrence, Ben Bouzid.
Oui, et ce manque de réglementation, et en même temps, en ce moment, il y a tout un ensemble d'acteurs qui fabriquent de la certification. Ça veut dire que des machines.
Donc ça génère de nouveaux métiers.
Des métiers, donc un travail d'audit. Et ce qui est important quand même de dire, c'est que la conférence dont parlait tout à l'heure Angèle Christin, c'est aussi une conférence qui produit de la norme. Et c'est là où les meilleurs chercheurs qui quantifient, on en a parlé de cette quantification, ont passé leur papier. Et ce que je voudrais dire sur votre question sur pourquoi on met de l'équité en. Et en fait. En matière de police, on n'a jamais autant débattu de justice sociale sur la manière dont on alloue les ressources policières que depuis qu'il y a des algorithmes qui nous imposent à formaliser là où on envoie la police. Ça. Donc en même temps, moi je suis assez partagé, c'est peut-être mon côté ingénieur, mais on n'a jamais autant fait de politique aussi que depuis qu'on a voulu depuis qu'on a voulu mathématiser la morale. Donc dire où est-ce qu'on envoie une patrouille plutôt qu'une autre, au fond avant on n'en posait pas cette question aussi bien qu'on la pose maintenant. Et beaucoup d'ingénieurs qui ont développé ces outils qui font partie de cette conférence sont d'accord pour dire qu'au fond, on débat un peu plus de ces questions depuis qu'on a ce travail mathématique.
Angèle Christin, alors ce sera le monde de la femme, malheureusement, parce que ce débat est passionnant. Comment vous voyez l'avenir de ça, l'avenir de la fairness, de la mathématisation de la morale, comme dit Bilal Ben Bouzid?
Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Bilal Ben Bouzid, au sens où je pense que c'est comme tout combat politique, hein, au final, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs stratégies et c'est peu clair en avance quelle est la plus productive, mais je suis d'accord que c'est ce phénomène de formalisation et de quantification d'impératifs politiques a un certain nombre de problèmes, notamment le fait qu'un certain nombre de valeurs se perdent quand même dans ce processus de quantification et de formalisation, mais cela permet quand même de rendre ces questions plus visibles. Et dans le contexte notamment de Black Lives Matter aux États-Unis, qui ont quand même radicalement changé la perception de la police et de la justice, cette visibilité est absolument essentielle. Et je pense que ces questions ne vont faire qu'augmenter dans les années à venir.
Et ben, je vous remercie beaucoup pour ce mot de conclusion. Merci à vous deux.
Merci.
Esprit de justice ce soir avec Angèle Christin et Bilal Ben Bouzid, Jean-Guilain Meige, Youtu Atlopez, Jeanne Delecroix, Sandrine Chaperon, Anne-Pascale Lévy et Antoine Garapon. Vous pouvez bien sûr écouter ou télécharger cette émission sur le site de franceculture.fr et moi je vous donne rendez-vous mercredi prochain à la même heure. À bientôt.